Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Content de voir quelques visages. Il doit y avoir la diapo pour aujourd'hui.
Je vais vous poser une question. Bon, je crois connaître déjà la réponse, mais avez-vous déjà été déçu?
Oui. Ça fait partie de nos conditions humaines.
Peut-être un autre sujet un peu plus tabou qu'on oserait peut-être moins dire, mais avez-vous déjà été déçu par Dieu?
Non.
C'est que je dis cela, que je dis peut-être un peu tabou.
Alors je suis un mauvais pasteur ou un mauvais chrétien, peut-être d'abord chrétien avant d'être pasteur.
Non, mais il peut y arriver quand même que sur le point de vue spirituel, c'est là où vous avez raison peut-être de faire la distinction entre Dieu et... Mais dans nos vies spirituelles, on peut avoir des déceptions.
Qu'est-ce que c'est une déception? C'est on a une attente. Alors quand ça concerne le Seigneur, on a une attente pleine de confiance.
Et cette attente, elle n'est pas répondue et ça peut créer une déception. Ça crée forcément même une déception. C'est pour ça que depuis deux semaines, on travaille sur cette notion entre les fausses conceptions et les bonnes attentes. Alors, juste un petit rappel, on s'était dit que les miracles ne sont pas une fin en soi. On peut avoir une attente spirituelle, dire « Seigneur, tu vas nous renouveler et puis on va avoir des miracles, des prodiges et puis là, tout va se résolver. » Mais ce n'est pas vrai. Les miracles et les prodiges ne font pas tout. Ce n'est pas un but en soi. Et l'autre erreur qu'on peut avoir comme fausse conception dans le renouvellement spirituel, c'est croire que voilà, le renouvellement ne se substitue pas à la sanctification. C'est-à-dire que « Seigneur, je vais être tellement rempli de toi que tout compte fait, vie spirituelle, j'ai plus d'efforts à faire. Quoi. Le péché, il ne va plus du tout m'atteindre. C'est faux. Je ne vais plus être du tout découragé. C'est faux. Il n'y aura plus aucune situation où j'aurai plus besoin de lire la Bible parce que de toute façon, je serai tellement rempli de toi que je n'ai plus besoin de chercher la face de Dieu. J'ai plus besoin de prier. » Tout ça, ce sont des fausses conceptions. Ce qui fait que l'on peut avoir ainsi des attentes qui en fait nous amènent plus à des déceptions qu'à des vraies réjouissances. Alors la semaine dernière, on avait vu développer ces quelques points, les bonnes attentes. Et on avait vu qu'une des caractéristiques du renouvellement spirituel, c'est un cœur qui brûle. Un cœur qui brûle. Ce cœur qui brûle nous amène à une consécration à l'œuvre de Dieu. Ça fait partie des choses, vraiment, on peut se dire, Seigneur, j'aspire à être renouvelé dans le Saint-Esprit, j'aspire à vivre quelque chose d'intense avec toi, et alors il y aura ça. C'est ça les attentes que l'on doit avoir. Quand on dit, Seigneur, je vais être motivé par toi, je vais être stimulé par toi, c'est la notion de la consécration, de l'attachement, de l'enthousiasme à voir l'œuvre de Dieu grandir. C'est ça un renouvellement spirituel. C'est pas juste de sentir des frémissements dans le dos ou de sentir une certaine émotion, ça c'est pas un renouvellement spirituel. Là, ce sont des petits signes émotionnels qui accompagnent l'onction, mais ce n'est pas des buts en soi. On ne peut pas vivre juste de quelques ressentis émotionnels. Il y aura un attachement à la parole de Dieu. Ça, ce sont les attentes que l'on peut véritablement avoir. Il peut y avoir, t'entends, dans notre vie spirituelle, des moments où, effectivement, la parole de Dieu ne nous parle plus comme avant, elle ne nous excite plus comme avant. Nous sommes en droit de dire, Seigneur, je veux ce renouvellement spirituel parce que je sais que par ce renouvellement, tu vas m'apporter un renouveau dans ma lecture, dans ma compréhension de la parole de Dieu. Ça fait partie des attentes que l'on peut avoir dans le renouveau spirituel. La sensibilité à l'esprit, la paix, la grâce de Dieu, la joie, la simplicité de cœur. Alors, on va garder ce tableau sous nos yeux. Et je voudrais voir avec vous ce matin, comme pour insister sur le fait que c'est véritablement très important d'avoir dans notre cœur de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises attentes. Il y a un homme dont il est dit en Jacques que c'était un homme de la même nature que nous. Alors ça va, on va parler de quelqu'un qui était comme nous, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses aspirations, ses conceptions, avec ses remises en cause, avec ses expériences, avec ses pleurs. Bref, un gars comme nous, quoi. Cet homme, c'est pourtant pas n'importe qui. Il est considéré dans l'Ancien Testament comme étant le plus grand prophète. Cet homme,
s'appelle Élie. J'invite à ouvrir votre Bible, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 17. On va faire beaucoup de lectures, on va les entrecouper. Et Élie est un homme, on va le lire là, notamment dans une expérience forte de sa vie. C'est peut-être probablement le récit qui est le plus connu de sa vie, 1 Roi, chapitre 17, dans l'Ancien Testament. Et cet homme a connu à un moment une profonde déception. Et justement, on va réaliser que la profonde déception que Élie a connue est liée justement entre une mauvaise conception, une mauvaise attente, et il sera renouvelé. Et il le permettra de réaliser en quoi, dans un renouvellement spirituel, il est important de fixer notre attention sur les bonnes attentes. Un roi, 17, il y a un contexte particulier. Avant de faire la lecture, il faut réaliser dans quel contexte on est. On est une situation où le peuple d'Israël est divisé. Alors pourquoi divisé? Ça veut dire quoi cette expression? Le peuple d'Israël représente 12 tribus. D'accord? 12 tribus. Imaginez, je ne sais pas combien il y a de départements en France. En Israël, à l'époque, il y en avait 12. Il y avait 12 tribus. Et elles étaient divisées. Il y en avait 10 d'un côté, 2 de l'autre. Ils avaient chacun établi leur propre roi, et pas n'importe lesquels des rois. Il y avait une tribu là, enfin une région, une demi-région là, quasiment que des mauvais rois, quoi, que des idolâtres, des gens qui se prosternent devant des statues, qui invoquent des mauvais esprits, parce que la Bible nous dit bien que derrière toutes les prostitutions spirituelles, derrière les idoles, chaque fois que l'homme se prosterne devant des statues, chaque fois qu'il invoque d'autres dieux que le dieu créateur du ciel et de la terre, en fait, il invoque des démons, mais ça, ils le faisaient, ils appelaient ça des dieux. Ils étaient vraiment dans l'idolâtrie. Ils faisaient des choses abominables. Ils sacrifiaient des enfants. Et donc le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël, avec son roi, allait vers ces choses-là. Et de l'autre côté, ils avaient aussi un roi. Alors c'était presque un peu mieux. Ça dépendait du roi. Il y en avait qui s'attachaient un peu plus à la parole de Dieu. Mais il suffisait qu'il meure pour qu'il y ait un autre roi qui lui faisait là aussi. Et puis ils étaient bons, mais on s'apercevait qu'ils avaient aussi beaucoup de lacunes. Donc le peuple était divisé. Il était tellement divisé. Imaginez la France qui était divisée, quoi. Ils étaient tellement divisés qu'entre frères, parce que c'est ça, hein, peuple d'Israël, 12 tribus, c'était des frères. Allez, pour les Français, on dirait pour des cousins, mais c'est pareil. Ils se faisaient même la guerre. Ils se faisaient même la guerre. Comment est-ce que c'est possible qu'un peuple soit amené à faire la guerre comme ça? Ouvrons les yeux. Est-ce que c'est pas aussi un peu l'état de l'Église? Où le peuple n'est pas forcément uni pour le royaume des dieux, uni pour l'œuvre de Dieu. Chacun essayant de chercher son intérêt. Chacun ayant son roi, son idée. Ce qui fait la faiblesse du peuple de Dieu, ce sont aussi ses idolâtries. Cherchant le plaisir plus que Dieu, nous dit Paul en Timothée. Aujourd'hui, pendant un temps, on parlait de tabac, de drogue, d'alcool comme étant des addictions. Mais on sait aujourd'hui que Facebook, les jeux ordinateurs, tout ça, les téléphones sont de véritables addictions. Et je crois que ça ne concerne pas que les adolescents. La télévision, où chacun préfère plus son petit confort que le royaume de Dieu. Et c'était complètement l'état d'Israël. Et quand on y réfléchit, on n'en est pas si loin que ça non plus. Et Élie était dans ce contexte-là. Élie était un prophète de Dieu. Et on arrive à ce qui arrive. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. On peut y lire ça jusqu'au verset 7. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Alors Akab, c'est un des rois qui idolâtre justement. L'Éternel est vivant. Et le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rappelez-vous, un des premiers signes que le Seigneur nous a donné, vous rappelez-vous, c'était le dessèchement spirituel. Lorsque spirituellement, on sent qu'on a besoin d'un renouvellement spirituel, ça s'exprime par cette sorte de dessèchement intérieurement. On n'a plus d'enthousiasme, on n'a plus d'élan. Et spirituellement, c'est pareil. Lorsque le peuple de Dieu, chaque fois qu'il continuait à retourner à ses idolâtries, qu'il abandonnait les voies du Seigneur, il y avait toujours les deux mêmes moyens de parler. Soit c'était des oppressions qui venaient de l'extérieur, ou alors, comme dans ce cadre-là, il envoyait la sécheresse. Et là, le message que Éléa reçoit du Seigneur, il dit, il ne va plus pleuvoir. Ça va être la sécheresse. Mais là aussi, il y a un message pour nous. C'est que ça a été la sécheresse pour le peuple. Évidemment, le peuple va à l'idolâtrie. Alors, il finira dans la sécheresse. Mais Dieu a en réserve des courants d'eau pour ses serviteurs. Amen.
Amen.
On peut être dans la sécheresse. L'Église est dans la sécheresse. Mais pour quiconque cherche la face de Dieu, pour quiconque cherche à le servir, pour quiconque s'attache de tout son cœur à aimer le Seigneur, et vous allez comprendre pourquoi je parle vraiment d'aimer le Seigneur, alors le Seigneur aura toujours des réserves pour cet homme, pour cette femme. Même si l'Église se dessèche et se dessèchera de plus en plus, même si ce n'est pas le souhait, mais si c'est la possibilité, il y aura toujours une promesse particulière pour l'homme et pour la femme qui cherche à plaire à Dieu.
Amen.
Élie faisait partie de ces hommes, et on le verra tout à l'heure. Alors, l'histoire continue. On va pas tout lire, mais on voit qu'après, effectivement, donc le torrent s'assèche. Dieu dit à Élie, va vers cette femme, elle va te faire des gâteaux, et puis il y a un premier miracle, c'est que cette femme dit, mais attends, je ne veux pas te faire de gâteaux, mais bref, je fais un peu de farine, un peu d'huile, si je fais ça, j'ai juste de quoi faire un plat pour moi et pour mon enfant, et après, on meurt. Élie dit, fais ce que je te demande. Ah, c'est difficile d'entendre de faire ce que Dieu nous demande, hein? Parce qu'on pense d'abord à soi, on pense d'abord à notre famille, à nos intérêts, et enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Je lui dis, fais ce que tu as dit, mais fais-moi le gâteau. Et là, il y aura la grâce de Dieu sur cette famille. Et cette femme aussi ne connaîtra ni la sécheresse, ni la famine, parce que son huile continuera à couler et son pot de farine sera toujours plein. Ça, c'est le miracle de Dieu. Toujours. L'obéissance précède le miracle. Or, c'est pas fini. Après, Élie fait un autre miracle. La femme, l'enfant de cette femme meurt et... Et il va intercéder en sa faveur, il va recommuniquer la vie. Mais là aussi, n'est-ce pas là notre responsabilité? De communiquer la vie à ceux qui sont en train de mourir autour de nous. C'est notre rôle, c'est notre mission. Dans la sécheresse, dans les difficultés, dans la mort, nous sommes à communiquer la vie. C'est notre rôle dans ce monde. Élie est un homme de la même nature que
nous.
Ok, donc... On est en train de parler de nous, là, au travail. Et puis, l'histoire continue. Et on arrive au chapitre 18. Verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année, 3 ans de sécheresse. C'est long, hein, 3 ans, quand on est dans une attente. C'est long, hein. On se dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir? Seigneur,
Depuis tant que je te demande. 3 ans. Va. Présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Va, présente-toi devant le roi et dis-lui que la pluie va revenir. Ça aussi, c'est... Vous pourrez lire le texte dans tous les sens. Hein. Et si vous avez une réponse, je suis prêt à l'entendre de votre bouche. Mais entre deux là, il ne nous est jamais dit que le peuple s'était repenti. Si vous lisez la vie d'Akab, c'est le pire des rois, c'est tout ça. Pire des rois. Un impie, il est faible, il est incapable de prendre des décisions, il s'est marié avec la femme, elle s'appelle Jézabel. Vous allez la voir un peu partout, jusque dans l'Apocalypse, Jézabel. On parle d'elle avec son idolâtrie, elle tue les prophètes. De toute façon, c'est elle qui dirige. Lui, il est tellement faible que de toute façon, à la limite, lui, il est juste là en roi pantin et c'est elle qui décide, quoi. Le roi ne... Pas de changement. Pendant 3 ans, c'est la sécheresse, mais jamais il se remet en cause. D'ailleurs, on va lire un peu le premier contact qu'il y a entre Élie et Akab. Et pourtant, Dieu dit, je vais envoyer la pluie. Mais bien aimé, quand je nous excite à dire, mes bien-aimés, si vous voulez vivre le renouvellement spirituel, c'est possible. C'est que la volonté de Dieu, c'est d'envoyer la pluie, mes bien-aimés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons renouvelés. La volonté de Dieu, c'est de nous redonner ce cœur bouillonnant. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions retrouver cet attachement. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions retrouver cette sensibilité à l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme qui s'y confient en lui puissent connaître cette paix, cette grâce de Dieu incroyable. Relisez Gédéon. On en avait parlé de Gédéon. Lorsque l'ange s'était présenté à Gédéon, oh vaillant héros, ouais vaillant héros, tu parles, t'as vu dans quelle galère on est. Dieu va pas lui donner une force surnaturelle, vous le lirez, ce que Dieu lui donne, c'est une paix. Et Gédéon, après cet entretien, va construire un autel à l'Éternel qui communique la paix. Dieu est celui qui veut nous communiquer cette paix, cette joie, cette simplicité de cœur. Il veut arroser malgré nos misères, malgré nos sécheresses, malgré nos incapacités. Dieu n'est jamais celui qui va nous donner en monnayant. Il veut ouvrir le ciel. Et Dieu dit à Akab par Élie, mais il dit à Élie, tu vas aller voir Akab et tu vas lui dire que j'envoie la pluie. C'est bon. Quelle grâce, non? Quelle grâce! Alors voyez comment il est accueilli. Élie, je vous invite à lire les versets 17 à 19. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Sympa l'accueil. Il lui a rien dit encore. Élie, hein, il lui a rien dit. Élie vient avec un super message. Et l'autre, là, il est tellement pris dans son aveuglement spirituel que quand il voit, il dit « Ah, mais c'est à cause de toi qu'il y a tous ces problèmes !» Verset 18. Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Et là, lisons ensemble le verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alors là, dites-moi là, il y a un truc qui m'échappe moi. C'était quoi le message que Dieu avait donné à Élie? C'est ça, hein? Va voir Akab et dis-lui, j'envoie la pluie. Élie se trouve devant Akab, il dit quoi? Rassemble les 800 faux prophètes là. Alors je sais pas, peut-être qu'il me manque des versets dans ma Bible.
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bah c'est pas grave, continuons notre histoire et lisons la suite du verset. Sitôt dit, sitôt fait, verset 20, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes de la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le découpent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, mais oui, le vrai Dieu c'est le Dieu qui va répondre, qui va intervenir, ça c'est un bon défi. C'était étonnant comme déjà dans le cœur du peuple il y avait comme une sorte de doute. Vous rappelez les oui, mais
oui.
Oui, c'est qui votre Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, Isaac ou c'est le Dieu de... Bah, il reste un peu silencieux, quoi. Hein. Comme s'il y avait encore un doute, mais...
Vous avez versé toujours les mêmes principes.
Alors, verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu, hein. Alors, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait, à midi. Et Élie se moqua d'eux, et dit, mais crie à haute voix, peut-être qu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Ah, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Ah, le diable, il rigole, hein, de temps en temps. Hein. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ah ouais, ah, ils sont capables de prophétiser, ces gens-là. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de qui? Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit, alors faites attention à cette phrase, elle est très importante. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit combien de pierres?
12
pierres. D'après quoi? Ben d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois, mais l'eau coula autour de l'autel. On l'en remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que ton serviteur, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, pardonnez-moi, et même les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oh, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kisson où il les égorgea. Oh ! Ça, c'est un récit extraordinaire ! Quelle puissance ! Quelle autorité ! Mais Benoît, mais c'est comme ça qu'il faudrait des pasteurs ! Des pasteurs qui font descendre le feu ! Mais c'est ça qu'on a besoin ! On a besoin de cette démonstration d'esprit ! C'est ça qu'on a besoin ! Des hommes comme ça, mon sang ! Ben oui ! T'as vu comment les gens sont convaincus ? T'as vu comment les gens ils sont prosternés ? T'as vu comment ils ont dit « Oh, c'est Jésus qui est le plus grand des dieux !» Oh, quelle journée ! Quelle journée, mes aïeux ! Quelle puissance, quelle grâce ! Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on essaye un peu de décoder quand même deux, trois petites choses. On avait remarqué que Dieu avait dit à Élie « Tu vas voir Akab et tu annonces la pluie. » Et là, il y a toute cette aventure. Bonne initiative quand même, t'as vu ? En plus, Dieu a répondu, le feu est descendu, là, Élie... Mais quand même, mais pourquoi est-ce qu'Élie a fait ça alors quand même ? Parce qu'il y a une question à se poser. Dieu lui dit de faire ça et Élie fait autre chose. Le scénario est pas mal. On a un beau récit à lire. Je pense qu'il y a eu des tonnes de prédications sur cet hôtel qui a été brûlé, là. Mais quand même, il y a quand même une question à se poser. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Élie ? Alors Élie, rappelons-nous, il est le prophète d'Israël. Israël est divisé. Élie est prophète d'une nation avec des rois qui sont complètement idolâtres. Et le désir d'Élie, on va revenir dessus, sur les sentiments d'Élie. Mais Élie est un homme qui souffre de ça. Le désir. Pourquoi est-ce que j'ai insisté qu'on fasse attention à la construction de l'autel ? Parce que avant, ce que Dieu veut, c'est que le peuple d'Israël soit uni. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qui est dans le désir de Dieu. Il ne veut pas que son peuple se divise de fraction en fraction. Il voulait que le peuple de Dieu soit uni. Et Élie savait ça. Et Élie, il est en train de reconstruire un autel de manière prophétique. Il est en train de dire, regardez, peuple d'Israël, c'est quand on est uni qu'on est en force. On va pas prendre 10 pierres, on va pas prendre c'est 12 pierres, on va construire. Il a rebâti sur l'autel que les aïeux avaient bâti. Le désir d'Élie, c'est de se dire, et le projet qu'il a dans son esprit, c'est de se dire, avec cette démonstration qui va se passer, eh ben le peuple va se réunir. Il n'y aura plus de division, il n'y aura plus la tribu du nord et la tribu du sud. Avec cette démonstration de puissance. Mais ils vont tous se dire, mais on est bête à nous gaspiller, on est bête à chercher midi à 14h, on est bête à nous occuper chacun de nos petites broutilles. Mais c'est Dieu, il est tellement grand, tellement puissant. Ce qu'il y a dans le cœur d'Élie, c'est ce désir de réunir le peuple. Quand il va couper la tête à tous ces faux prophètes, à tous ces adorateurs, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, c'est bon, on va supprimer le mensonge, on va enfin en parler clairement, on va éliminer, et le peuple va retourner vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il se dit, le peuple va retourner à la vérité, le peuple va retourner à une adoration sincère du Dieu vivant, celui qui nous a sortis d'Égypte, celui qui intervient. Élie se dit, avec cette démonstration de puissance, on va solutionner tous les problèmes. On va retrouver une unité. Et naturellement, et c'est normal, tous ceux qui ont vu ça, ils vont forcément se convertir au sens spirituel du mot, c'est-à-dire se tourner vers Dieu pour l'aimer, pour le servir. D'ailleurs, il le dit au verset 37. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc ils s'attendaient vraiment par ce miracle à ce que les cœurs reviennent vers Dieu. Alors une fois que le miracle est passé, là, que le feu est tombé, que les faux prophètes ont été égorgés, bon, on va pas imaginer plus la scène, mais c'est violent, hein. On arrive au verset 41. Et enfin, Élie commence maintenant à communiquer le message qu'il a reçu de Dieu. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce quoi ?» Ah, enfin ! Ah ben c'est pas trop tôt, Élie ! Achab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Élie, il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » C'est-à-dire que 7 fois, Élie veut dire, « Va voir. » Et 7 fois, il va revenir et dit, Élie, bon, je ne veux pas te décourager, hein, tu pries là, c'est bien, tu es tout seul à la réunion de prière, mais il est tout seul à la réunion de prière, hein, lui aussi. Hein. Mais il n'y a rien, Élie, laisse tomber. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Rappelez-vous, quand on avait parlé de ça, la grâce de Dieu, la bonne main du Seigneur est avec ceux qui se laissent renouveler et ceux qui suivent ses commandements. Voilà, il y a un nuage, il ressemble à une petite paume de main, et c'est peut-être ça, non? Alors Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Permettez-moi de vous rappeler que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas tombé une seule goutte. Et là, il y a une forte pluie qui arrive. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel, toujours là, fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Eh bien, dis donc, quelle journée, hein ? Quelle journée ! Quelle journée, ce rassemblement! Alors déjà, il rencontre Achab en train de le menacer, il dit, oh, c'est à cause de toi qu'il y a tous ces problèmes, et puis il convoque là 800 personnes, plus le peuple, ils font ses autels, ses sacrifices, le feu du ciel descend. Déjà, c'est chargé d'émotions tout ça. Et puis il continue d'intercéder, et puis après il y a la pluie qui arrive. Je ne sais pas dans quel état vous auriez été à la fin de la journée. Je pense fatigué, mais heureux. Hein ? Fatigué parce que la journée était épuisante, mais non pas suffisamment épuisante, mais il était tellement reboosté spirituellement qu'il était prêt à courir plus vite que le char du roi, quoi. Quelle journée ! Quelle journée ! Alors continuons le verset chapitre 19. Achab racontait à Jézabel, c'est normal, c'est sa femme, donc il parle de la journée aussi, tout ce qu'avait fait Élie. Et comment ? Il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Ni une, ni deux. Ça, c'est dans ma Bible que c'est écrit. Hein. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Bref, demain, si tu es encore vivante, j'ai raté mon coup, je vais te massacrer. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrêta à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Si vous regardez une carte, en fait, il était dans le nord du pays. Il est allé complètement dans le sud du pays. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda
la mort.
En disant c'est assez. C'est assez. J'en ai marre. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Ça nous fait penser un peu à Jonas. Hein, il se met au fond du bateau, il dort. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Pourquoi Horeb? Parce que c'est là que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'était révélé à Moïse, dans ce buisson. C'est là. Et là, c'est beau de voir notre Élie qui retourne à la source, qui retourne là où tout a commencé pour le peuple d'Israël. Il retourne là où la voix de Dieu s'était exprimée. Il retourne là où Moïse avait entendu cette voix. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé à Damas, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie et on met trois petits points parce que l'histoire continue. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas médecin, mais si on dit que Élie traverse un temps de grosse déprime, j'en ai marre! T'en es assez! J'en peux plus! Prends ma vie! C'est fini pour moi! C'est fini! Je suis pas meilleur que les autres! Quel espoir est-ce que j'ai? Voilà un homme qui arrive au bout du. Il a sorti toutes ses cartes. Voilà un homme qui s'est dit, mais avec ça là! Rappelez-vous comment la fin de la journée d'avant s'était bien passée. Il était pardonnez-moi exprès, mais péter le feu. C'était une super journée. Le feu de Dieu était descendu. Comment ça se fait qu'une petite nouvelle et tout s'écroule sous ses pieds? C'est comme si le monde entier s'était écroulé sous ses pieds, comme si un gouffre s'était ouvert. Et là, il se dit, mais ça sert à rien, je ne sers à plus à rien. On pourrait tout simplement résumer l'esprit d'Élie en disant, mais tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour rien. Tu m'as établi prophète. On fait des trucs extraordinaires ensemble. Et c'est vrai. Le constat, il est nul. Le peuple de Dieu, ah oui, ils ont été extasiés devant, pardonnez-moi, devant le feu d'artifice. Mais c'est tout. On ne voit aucun signe de repentance. Il s'était dit, Acab, il va être là, il va voir ces choses-là. Il va se prendre en main. Il va enfin prendre son rôle de roi. Son rôle de mari. Tu parles. Acab, il rentre chez lui, il raconte tout ça à sa femme. Tu te rends compte, gna. Et voilà qu'il se refait encore piétiner sur la tête. Oh, c'est bon, hein. Alors celui-là, là, toi déjà, Acab, tu rentres dans ta chambre, tu verras. Et moi, je vais m'occuper de ton Élie. Tout ça, c'est pour rien. Lui qui pensait réunir le peuple d'Israël. Il n'y a rien de tout ça. Et lui qui espérait au moins que le roi puisse se convertir, puisse changer de mentalité, qu'il puisse véritablement être le roi du Dieu d'Israël. Voilà, qui continue de se faire piétiner, de se faire marcher la farine. Et que Jézabel continue de diriger le pays. Et pardonnez-moi de vous rappeler, c'est pas Jézabel hein, qui va essayer de tuer. Elle envoie des gens pour le faire. Le peuple aurait pu dire, non Jézabel, c'est fini. T'as fait assez de misère sur notre pays. Non, maintenant, on réalise que Élie, c'est le prophète. On réalise que c'est Dieu qui est l'Éternel. Mais pas du tout. Et quand Élie entend ce messager, lui apporter ce message, il réalise que tout ça, ça servit à rien. Tout ça, ça servit à rien. Et Élie souffre. Élie souffre. Élie souffre. Il souffre de la situation d'Israël. C'est pas pour rien, vous savez, que Dieu pose deux fois les mêmes questions. C'est pour montrer vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ton fond, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, Élie. Et Élie, il exprime sa souffrance. Regarde, ils ont abandonné ton alliance. Le peuple s'est détourné de toi. Je suis le seul à chercher ta femme, je suis le seul à t'honorer. Regarde le peuple, comment il t'a abandonné. Mais c'est pas une question individuelle qu'il a, c'est pas un problème personnel. Il souffre de ce que le peuple ait abandonné le Seigneur. C'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction dans le cœur des hommes et des femmes qui sont réveillés par le Saint-Esprit. D'un côté, il y a cette paix, il y a cette joie, il y a ce renouvellement que l'on reçoit du Seigneur. Mais d'un autre côté, il y a ce que Paul a pu exprimer par ces quelques mots. Il y a comme un chagrin continuel. Et c'est vrai qu'il y a comme une dualité dans le cœur de celui qui est renouvelé par le Saint-Esprit. À la fois, il connaît cette présence de Dieu, il a cette espérance, il a ce ressourcement régulier, il a cette intimité avec Dieu, il a cette joie, il a cette sensibilité à l'Esprit, il est rassasié par la parole de Dieu, il est stimulé par la vie de l'Esprit avec Dieu. Et une autre partie de son cœur est en souffrance. Sachez, mes bien-aimés, que ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu sont aussi des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a cette joie qui vient du Seigneur, mais il y a aussi cette souffrance pour le peuple de Dieu, qui n'est pas uni comme il devrait être uni. Il y a cette souffrance pour les âmes qui se meurent, jour après jour. Et il se dit, mais combien il y a d'hommes sauvés dans l'Église et combien il y en a dehors? Il ne peut pas rester tranquille. Il y a, c'est vrai, une sorte de contradiction dans le cœur de ceux qui sont renouvelés par le Saint-Esprit. Et Élie est un homme qui souffre, non pas de son manque de relation avec Dieu, ça non, on va le revoir tout à l'heure. Mais Élie souffre de la situation du peuple d'Israël. Il souffre de voir toute cette idolâtrie qui se répand dans la nation. Il souffre parce que les autels sont renversés. Il souffre parce que les prophètes ont été annulés. Et il y a véritablement de quoi souffrir. Quand on voit que l'église est désertée, quand on voit combien le peuple de Dieu lit de moins en moins la parole, et on se dit, mais jusqu'où ils vont aller? Pourquoi?
Élie est un homme qui souffre, non pas pour lui-même, mais il souffre pour le peuple. Et là, il connaît une profonde déception. Lui qui croyait que par cette démonstration de puissance, il allait enfin voir le peuple de Dieu retourner à cet amour. Élie, il souffre de cette profonde déception parce qu'il exprime deux fois. Et c'est d'ailleurs le premier motif de son explication. Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible au verset 10 et 14? Est-ce que moi j'ai lu, dans ma version c'est écrit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais il est fort probable que dans votre Bible, si vous avez une autre version, vous ayez une autre phrase. Versets 10 et 14. On a tous la même traduction là. Donc vous avez tous la Louis II, c'est ça, hein? Alors, permettez-moi de... 1, 2, 3, 4... Moi j'ai au moins 5 versions différentes. Et je vous lis la même phrase. Hein, il y dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et en fait, ce mot zèle, nous on le considère comme une sorte d'énergie. J'ai dépensé toutes mes forces. Je me suis consacré. Mais c'est plus subtil que ça, ce mot zèle. Parce que c'est le mot qui exprime à la fois l'amour et le service. Alors je vous lis 5 versions différentes. Seigneur, Dieu de l'univers, écoutez ça. Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Il répondit, une autre version, j'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur. Une autre version dit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel. Tob dit, je suis passionné par le Seigneur. Et celle-ci, celle que j'aime beaucoup, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. C'est beau, hein? Vous voyez comment Élie est en train de parler? Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais comme je t'aime. Tu sais que tout ce que j'ai fait là, c'était pas par légalisme. C'était pas pour faire plaisir au pasteur. C'était pas pour faire plaisir aux autres. C'était pas parce que c'était un devoir. Mais je l'ai fait parce que mon cœur brûle. Mon cœur est animé de cette relation, de cet amour pour toi. Voilà pourquoi, quelque part, je suis complètement déprimé. Mon cœur brûle pour toi. Je me suis consacré pour toi. Je me suis engagé entièrement pour toi. J'ai presque livré ma vie. Il ne reste plus que moi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé parce que je t'aime. Et regarde, je préfère mourir. Ça ne sert à rien tout ça. À quoi bon? Peut-être que c'est des phrases qui ont pu venir à votre esprit. À quoi bon te servir? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourquoi est-ce que Élie dit « je ne suis pas meilleur que mes pères » ? Parce que depuis toujours, les prophètes avaient le même message. Revenez au Seigneur, soyez unis, réconciliez-vous, que le peuple... Et Élie croyait que par sa démonstration de puissance, « ça y est, c'est bon les gars, j'ai la technique, je vais faire descendre le feu du ciel !» Mauvaise attente, mauvais résultat. Mauvaise attente, mauvais résultat, profonde déception. Oui, Élie est véritablement un homme qui a le cœur qui brûle. Je t'aime tellement, Seigneur. Et voilà qu'il pensait que par cette démonstration de puissance, il pouvait toucher les cœurs. Et on peut, si on a des mauvaises conceptions spirituelles, dire « Seigneur, on cherche ta face, on veut les miracles, on veut les prodiges, on veut les paroles inspirées. » Oui, on en a besoin, amen, on en a besoin. Mais pas pour prouver quoi que ce soit. On a besoin que celui qui est dans la souffrance et dans la maladie puisse être guéri, amen. Mais pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'on l'aime. Oui, on a besoin de paroles inspirées.
Parce qu'il y a des hommes, des femmes, des inconvertis qui viennent au milieu de nous avec des questions, avec des interrogations. Ils ont besoin d'entendre de la part du Seigneur une parole qui touche leur cœur. On en a besoin et on doit les rechercher. Mais on ne doit pas inverser les choses. Si Dieu a béni, si la bonne main de Dieu était avec Élie, même dans cette histoire où il ne lui a rien demandé, hein, sur le coup de l'autel, du sacrifice, de l'holocauste, Dieu ne lui a rien demandé. Dieu a permis. Tout simplement parce que Élie était un homme qui était attaché à Dieu. Et après, vous avez vu comme Dieu ne lui fait aucun reproche ? Rien. Il lui a pas dit, hey, Élie, ben c'est un peu le caquet là. Hein, si tu t'étais contenté de ce que je t'avais dit, tu serais pas là en train de pluriser sur toi. Hein. Si t'avais envoyé la pluie, tu crois que Jézabel, elle t'aurait menacé de mort ? Pas du tout. Hein, Élie, si t'avais fait ce que je t'avais demandé, tu crois que tu serais dans cette panade en train de pleurnicher sous ton genêt là ? Oh, lève-toi ! Est-ce que Dieu parle comme ça ? Jamais. Jamais. Pas un mot de reproche. Il lui fait pas non plus une théologie. Il dit, ok, Élie. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie, au fait ? Hey. Quelque part, il pousse Élie un peu à réfléchir. Mais t'en es où dans ta vie, là, Élie ? Oh, Élie, tu fais quoi, là, dans ta grotte ? Tu fais quoi sur ce chemin ? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé ici ? Est-ce que c'est moi qui crée dans ton cœur autant de découragement, de lassitude ? Élie, tu fais quoi ici ? Tu fais quoi dans cet état, Élie ? Élie ! Élie ! Et là, Dieu a une démonstration extraordinaire. Il dit, va là-bas. Je vais t'y rejoindre. Alors, Élie, il y va à la grotte. Et Dieu le rejoint. Mais Élie, qui est un homme qui a le cœur qui brûle, qui a montré sa consécration, qui est attaché à la parole, parce qu'il en pleure que le peuple est également un homme. Parce que tout ça, c'est lié. Il est sensible au Saint-Esprit. Ah oui, il y a les rochers qui explosent de peur. C'est impressionnant, on est dans une grosse, ça résonne. Ah, tremblement de terre. Le feu. Il a dû un peu faire tilt. Oh, tiens, le feu, c'est bizarre. Je l'ai vu descendre il y a quelques jours. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Vous savez, quand on parlait du téléphone, du GSM, qui cherche toujours le signal avec le Seigneur, nous sommes appelés à être ça. C'est pas parce que ça fait du bruit, c'est pas parce qu'il y a une démonstration que le Seigneur est forcément là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas guéri en ton nom ? Je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité, dira Jésus. Mais parce que Élie avait cette relation, quand il y eut ce murmure doux et léger, et Élie s'est humilié. C'est cette image de mettre quelque chose sur le visage. Il a réalisé que là, son Dieu était là. Dans ce murmure doux et léger, dans cette subtilité du silence, dans ce cœur à cœur. Et là, Élie prend une leçon extraordinaire. C'est que si son cœur à lui a pu être renouvelé, d'ailleurs Dieu lui dit après, une fois qu'il a parlé avec lui, il dit reprends le chemin. Reprends le chemin. Le chemin que tu as délaissé, vas-y, reprends-le. Allez, c'est parti, Élie. C'est parti, Élie. Il est reparti et il aura d'autres missions. La vie d'Élie ne s'arrête pas là. Lui croit que c'était fini pour sa vie. Hein. Reprends-moi, je suis foutu. Ça sert à rien que je continue. Mais Dieu lui donnera une autre mission. Reprends ton chemin. Élie va réaliser que le renouvellement spirituel, ce n'est pas la recherche du spectaculaire, mais c'est la recherche de la présence de Dieu. C'est la recherche de cette intimité. C'est la recherche de cette relation intimiste avec son Dieu. Du fait qu'il avait une mauvaise attente, il était arrivé d'une profonde déception. Mais Dieu le rappelle, le ramène, le régénère dans cette intimité avec Dieu, dans ce murmure doux et léger. Et c'est ça que nous devons réaliser. Ni par la force, ni par la puissance, dit Zacharie, mais par mon esprit seulement. Et c'est ça que nous devons rechercher, mes bien-aimés. Si nous voulons un renouvellement spirituel, recherchons cette intimité. Et nous sommes en droit de dire, Seigneur, je veux un cœur qui brûle. Seigneur, je veux te servir. Parce que le service alimente aussi la vie. Seigneur, Et on va, je pense, la semaine prochaine, voir un côté plus pratique sur retrouver ce feu dans le cœur. Dieu a montré à Élie que l'essentiel n'était pas dans son zèle, n'était pas dans le service, dans l'agitation, dans le feu, dans la démonstration. Mais il lui a montré que c'est dans une relation personnelle. C'est là l'important. C'est la relation personnelle. C'est l'attente, c'est l'état de cœur. Alors le Seigneur, pour nous convaincre un peu plus, nous a envoyé une lettre. C'est vendredi. Alors que j'étais en train de travailler là-dessus, hop, je reçois un mail. Et je me suis dit, Seigneur, c'est... On a parlé de Élie qui était un homme de la même nature que nous, mais bon, il y a longtemps, quoi. Ça, là, ce que je vais vous lire, là, ça a quelques semaines. Alors, c'est un pasteur qui a fait un voyage. Il a été invité en Inde à prêcher l'évangile. Après quelques heures de repos, je suis convié à une première réunion dans le cadre d'un séminaire qui rassemble plusieurs dizaines de pasteurs et responsables des églises de la mission Gypsy en Inde. La réunion a duré plusieurs heures où chants, louanges et prières entrecoupent la méditation de la parole de Dieu. Comme chez nous, hein, en particulier, chants, louanges, prières, méditation de la parole de Dieu. Ce qui frappe avant tout, c'est la ferveur des participants. Le lendemain, tous sont là. Tous sont là, avec la même ferveur pour louer Dieu et partager la méditation. Ce sont des moments intenses où communion fraternelle et piété se mêlent. Puis, dans le cadre du partenariat avec la mission, un programme de visite d'une dizaine de hommes d'enfants est prévu. J'en garde un souvenir inoubliable. Ça fait 40 ans que cet homme sert le Seigneur. Peut-être 30 ans. Ces enfants qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu témoignent à leur famille, prient pour elles et racontent des témoignages de l'œuvre spectaculaire de notre Dieu. Miracle, guérison, conversion. À chaque visite de maison, c'est le même protocole. Quelques mots d'échange, un temps de prière et de témoignage, distribution de cadeaux, puis de délicieux gâteaux. C'est du bonheur de voir les yeux de ces enfants briller de reconnaissance. Il a raconté aussi, en aparté, que quand il dit temps de prière, c'est des heures de prière. Il voit des bouts de choux prier pendant 2 heures, 3 heures, pour intercéder et louer. Au programme de ces 12 jours de visite, 3 inaugurations de halls de prière sont aussi prévues. Ce sont des îlots de joie fraternelle au milieu d'une campagne ténébreuse et misérable. Oh, c'est dur chez moi, frère! Ah oui. L'exotisme de certains endroits cache des pratiques idolâtres sombres. Malgré la pauvreté ambiante, ces chrétiens chantent avec bonheur des cantiques dans leur langue, tout en s'accompagnant parfois de pas de danse. Je revois encore leur regard attentif pendant la prédication traduite en plusieurs langues. Un de ces cultes m'a profondément marqué et laissé des traces indélébiles dans mon cœur. La présence de Dieu était telle qu'on avait l'impression de pouvoir la toucher. Quand on sait l'influence que l'on peut avoir sur une génération en lui communiquant les bonnes valeurs et le beau message de l'Évangile, on ne peut que saluer les efforts de la mission en Inde parmi les intouchables et encourager dans nos pays riches, le parrainage de ces enfants dont les parents ne peuvent pas assumer économiquement leur avenir car leur salaire se situe entre 100 et 200 euros par an. Mais l'essentiel, c'est pas ces 100 ou 200 euros par an.
c'est l'atmosphère spirituelle. Et cet homme n'a pas été marqué seulement par les miracles et les prodiges, mais par l'état de cœur de ces gens, par leur zèle, par leur amour, par leur attachement à la parole de Dieu, par leur vie, par leur sensibilité à l'esprit, par la joie, par la paix, par la grâce qu'il y avait. Malgré que l'ambiance soit ténébreuse, malgré que leur situation soit terrible, malgré que l'atmosphère est là pesante, quand le cœur est renouvelé, quand le cœur brûle la présence de Dieu, tout le reste suit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen.